Votre grand journal du soir sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard.
Mes invités ce soir autour de la table, Jean-Marc Canon, secrétaire général CGT Fonction Publique, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Gilles Janot, sociologue, chercheur à l'école des ponts Paris-Tech. Ah oui, c'est comme ça qu'on dit maintenant, ouais. Les ponts Paris-Tech. Auteur de... C'est les ponts des chaussées.
Oui, c'est les ponts des chaussées.
D'accord. Non, mais voilà. J'ai peur de dire une bêtise. Auteur de Revenir au service public à la documentation française. Et Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet de conseil Asterès, co-auteur avec Julia de Funès de La comédie inhumaine, pourquoi les entreprises font fuir les meilleurs, aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Nicolas Bouzou.
Bonsoir.
Je crois que j'ai déjà assez conseillé ce livre sur cette antenne. Benjamin Muller est avec
vous
également.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Comment ça va, Benjamin?
Ça va super.
J'ai, pour parler dans notre jargon, jeté votre petit mot de lancement.
Je vous remercie.
D'ordinaire, vous nous présentez comment les médias ont traité un sujet de l'actualité,
c'est,
Benjamin.
Ça, c'est pour jusque-là, c'est
pas
bon.
De bêtises.
Et
ce
aujourd'hui,
soir,
c'est un couple qui fait la une.
Oh,
j'ai plus besoin de vous imprimer des papiers, j'ai l'impression. Un couple qui fait la une à l'occasion du grand début de leur procès. J'ai nommé Isabelle et Patrick Balkany.
C'est un couple mythique de la politique française qui passe devant la justice.
Oui, c'est un peu le couple infernal de la politique française.
Un couple infernal, mythique, peut-être un peu les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'eux, même Skyrock, rendez-vous compte, la radio jeune.
Amour, gloire et procès, c'est l'heure des comptes pour le couple Balkany.
Voilà, jolie formule qui résume bien les fantasmes que l'on a tous sur ce couple.
La Skyrock, la radio jeune, il a une figure gangsta, Patrick Balkany. Non,
vous avez raison.
Voilà pour votre best-of de vendredi.
Vous avez raison. Alors d'ailleurs, bon, pour revenir plus sérieux, la journaliste Elisabeth Lévy, pour elle, la presse est très mauvaise sur ce procès qui débute.
Quant à la présomption d'innocence, la délectation d'un certain nombre de médias à l'idée que ces gens vont tomber est juste dégoûtante.
Voilà, les méchants médias qui espèrent la chute du gentil Balkany, tout l'inverse des habitants de Levallois qui, eux, coûte que coûte, le soutiennent, comme ce monsieur.
Pour l'instant, il est présumé innocent avant d'être jugé coupable. Donc.
Ça ne ternit pas leur image.
Non, pas du tout. Je revoterai pour lui.
Voilà, ça c'est une constante. Les Levalloisiens, il faut se lever très tôt pour en trouver un qui va critiquer monsieur le maire.
On les accuse de fraude fiscale, aggravée, etc. Mais bon, c'est pas mon problème.
Mais tout à fait, madame, pourquoi ça serait notre problème à nous tous? Alors Patrick Balkany, faut en dire un mot, c'est aussi un sacré personnage médiatique. Twitter ressort aujourd'hui quelques pépites, comme ce conseil municipal filmé par Canal+, où le maire s'adresse à un conseiller socialiste. On est en pleine présidence, François Hollande.
Mais vraiment, on en a marre du socialisme en France. Vivement le changement! Vivement dans 2 ans, qu'on vous voit plus!
Non, monsieur le maire!
Monsieur le maire, voilà le débat à la sauce Balkany, la démocratie telle qu'on l'aime. Mais Patrick Balkany, c'est aussi cette interview lunaire qu'il accorde à la télé américaine, c'était sous la présidence Sarkozy.
Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent.
Et oui.
Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France.
Sacré Patrick, toujours le mot.
C'était un nul, hein, je me souviens, il s'était fait piéger. Je me souviens
lui,
de
il
cette
répondait
interview.
Sérieusement.
Oui, bien sûr.
C'est ça le drame. Alors, l'invité dans une émission, vous êtes donc sûr d'avoir une perle. Dernier exemple, il va vous plaire. Mathieu, Robert Ménard, à l'époque, avait une interview sur iTélé. Il reçoit Balkany. L'interview se termine comme ça. Vous allez voir, on est très détendu.
Dernière question, juste de vous à moi. Vous avez vraiment couché avec Brigitte Bardot?
Bah, si, elle l'a dit.
Ah non, elle a démenti, ah, vous l'avez laissé en
vie. Oh, mais c'est tout ce que vous avez à dire. Vous avez lu mon livre. Lisez mon livre, au moins. Vous
donc, vous avez bien couché avec Brigitte Bardot?
Bien sûr.
Bien sûr.
Voilà.
Évidemment.
Pourquoi tu me demandes ça, gamin? Voilà donc pour un homme qui sait y faire à la télé et à la radio pour amuser la galerie. Le mot de la fin pour l'un de ses administrés, c'était sur France Inter ce matin.
C'est un bon maire et une crapule. Les deux sont possibles, la preuve. Tout le monde le sait ici, hein, c'est pas nouveau.
Voilà, peut-on être un bon maire et une crapule? Ça fera un bon débat, ça aussi.
Oui, alors je sais pas, mais vous avez certainement entendu Jean-Christophe Picard, qui est président de l'association Anticorps, qui était mon invité il y a une 3 quarts d'heure à peu près, qui est assez dépité quand on lutte contre la corruption, de voir qu'ils sont réélus, enfin ils sont replacés très régulièrement à la tête de Levallois-Perret. On va suivre ce procès évidemment, on va rappeler qu'ils sont Patrick et Isabelle Balkany présumés innocents, jusqu'à ce que la justice décide autre chose. Merci Benjamin Muller. J'ai une question, une première question dans notre débat sur la fonction publique autour des époux Balkany justement. Restez bien sur Europe 1, il est 19h28.
Europe 1.
Que faut-il réformer dans la fonction publique? Vous restez avec nous, le débat va démarrer. Jean-Marc Canon, Gilles Janot et Nicolas Bouzou, à tout de suite.
Vos invités Mathieu Béliard jusqu'à 20h, Jean-Marc Canon, secrétaire général CGT Fonction Publique, Gilles Janot, sociologue, chercheur à l'école des ponts Paris-Tech, auteur de Revenir au service public à la documentation française, et Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet de conseil Asterès, co-auteur avec Luc Ferry, Sagesse et folie du monde qui vient, paru chez Ixo.
La réforme de la fonction publique qui arrive donc à l'Assemblée nationale, on en a déjà parlé ces dernières semaines, un texte qui crispe pas seulement les syndicats, mais on a un front syndical uni dans la contestation présentation de cette réforme. Notre débat ce soir, que faut-il réformer dans la fonction publique ? Alors, j'hésite pour cette première question, mais comme je l'ai dit juste avant, j'avais le président d'Anticor en ligne avec nous sur le cas des époux Balkany, qui expliquait que la justice avait les documents depuis 2000, a ouvert une enquête en 2014. Alors, il questionnait ce temps pris par la justice, mais c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Est-ce qu'on manque de bras, déjà tout simplement, de fonctionnaires dans une partie de la fonction publique comme la justice, mais pas seulement? Autour de la table, par qui commencer, Nicolas Bouzou?
Oui, bien sûr. Dans le domaine de la justice, oui. D'ailleurs, on voit bien quand on regarde le budget de la justice en France, si vous comparez par rapport à l'Allemagne, par exemple, vous avez un budget de la justice par habitant qui est deux fois inférieur en France à ce qu'il est chez nos voisins. En fait, c'est peut-être ça qui crée de l'anxiété quand on parle de réforme de la fonction publique, c'est qu'on a le sentiment qu'il faut tout baisser, qu'il faut baisser le nombre de fonctionnaires, qu'il faut baisser la dépense. Bon. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses à baisser, hein. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Je pense même qu'on peut baisser la dépense publique dans notre pays. Mais en tout cas, je pense que l'approche globale, elle est mauvaise, parce que la réalité de la fonction publique, c'est qu'il y a sans doute des domaines où on peut faire des économies, où on peut même supprimer des postes, et il y a des domaines dans lesquels il faut augmenter des postes. Et l'exemple de la justice est excellent, parce que, me semble-t-il, c'est vraiment l'un des domaines dans lequel il faut mettre plus de moyens et augmenter les postes. Mais en même temps, on a des contraintes budgétaires, on a un léger problème d'endettement public en France, comme vous savez, et donc on ne peut pas tout faire. C'est sans doute la raison pour laquelle il faut faire une réforme de la fonction publique.
Jean-Marc Canon, Emmanuel Macron est revenu sur l'objectif de 120 000 suppressions de postes d'ici à 2022, sans préciser ce que serait la réalité du nombre de postes supprimés. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires ?
77 783. Alors je cite ce chiffre parce que pourquoi 120 000, pourquoi 80 000, pourquoi 300 000 ? C'est quoi ce débat ? Je n'arrive même pas à comprendre de quoi on parle. Pour la CGT, comme je crois pour un certain nombre d'autres organisations syndicales, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un débat sur quelle mission publique on veut voir confiée à l'intérêt général pour le bien de la population. Et à partir de là, à partir de ce débat contradictoire que nous appelons de nos voeux, nous verrons de quels emplois nous avons besoin. Moi, je vais poser une question ici. Est-ce qu'on a besoin ou pas d'emplois à l'hôpital public ? J'aurais qu'on me réponde à cette question. Moi, j'entends que tout le monde dit que l'hôpital public est une situation critique. Chacun qui peut aller dans les urgences voit dans quelles conditions travaille, de manière parfois extrêmement, pourtant avec une grande dévotion, le personnel. Mais qui parle de créer des emplois à l'hôpital public ? Personne. Il y a eu des scandales tout à fait récemment, Lactalis, d'autres sur sanitaires, très graves pour la santé des citoyens. Parce que moi, je pense que le service public, il est fait avant tout pour les citoyens. Il n'existe que pour ça. Or, j'observe, le sait-on suffisamment, que la DGCRF, la fameuse Direction Générale de la Répression des Fraudes, vous savez combien il y a d'emplois aujourd'hui pour contrôler plus d'un million d'entreprises en France, etc. 2800. Cette administration a perdu la moitié de ses emplois en 15 ans. Il n'y a pas des emplois à créer là et je pourrais multiplier les exemples. Donc moi, ce que je veux, ce n'est pas un débat où on ne fait du fonctionnaire une variable d'ajustement macroéconomique. Je refuse ces débats. Ce n'est pas celui dont veulent les Français d'ailleurs. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un débat. Quelle mission publique on a besoin pour l'intérêt général, pour la population? Et à partir de là, nous verrons le nombre d'emplois dont nous avons besoin. Moi, je crois pour la société qu'il y a un grand nombre d'endroits où il faut au contraire créer des emplois pour le bien-être de tout le monde.
Gilles Janot, c'est moi qui ai posé la question en ces termes, hein. C'était pas forcément la première question du débat, mais on y revient assez souvent. L'idée de faire des économies, Nicolas Bouzou a rappelé la problématique de notre endettement public. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on parle de réformer la fonction publique, on parle en réalité de réduire la dépense publique ?
C'est quand on parle de réduire la dépense publique qu'on parle de réduire la fonction publique, parce que c'est à l'évidence une part importante du budget. Mais bon, c'est l'enjeu, je rejoins Jean-Marc Canon.
Jean-Marc Canon.
L'enjeu, c'est les fonctions, les missions qu'on veut développer, et c'est aussi la qualité du travail qui est engagé. On a finalement, au nom de l'économie, on a développé une nouvelle forme de bureaucratie faite d'indicateurs, de comptage, de reporting, etc., qui mobilise une grande part de l'activité des fonctionnaires aujourd'hui, alors que finalement, en leur laissant un peu plus de marge de manœuvre, en reconnaissant les professionnalités et le savoir-faire des agents, eh bien, on pourrait retrouver de l'efficacité.
On va prendre Francis au 39-21, déjà depuis Nancy, chef d'entreprise. Bonsoir Francis.
Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs.
Soyez le bienvenu Francis, je vous prends le premier, je vous prends tout de suite, puisque précisément je crois que vous étiez sur la question des effectifs.
Oui, effectivement, pour répondre à votre question, il faut réformer la fonction publique. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et il faut réformer la fonction publique en augmentant le nombre de fonctionnaires. Alors, pourquoi il faut augmenter le nombre de fonctionnaires ? Parce que, contrairement à ce qu'a dit Nicolas Bouzeau tout à l'heure, il n'y a pas des endroits où on manque de fonctionnaires et des endroits où on a trop de fonctionnaires. Quand on pose cette question-là dans des réunions à des gens qui tiennent ce discours-là, citez-moi un endroit où on a trop de fonctionnaires. Et je pose d'ailleurs cette question à Nicolas Bouzeau en aparté de ce que je voulais dire. On a besoin de fonctionnaires, pourquoi ? Parce que dans le monde économique, quand vous allez discuter avec un banquier, ce qui a été mon cas vendredi dernier, je déjeunais avec un ami qui a une fonction importante dans une banque. Il m'a dit un fonctionnaire, c'est le meilleur client, un fonctionnaire titulaire. Pourquoi ? Parce qu'on sait dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans où il sera. Et donc, on peut lui prêter sans aucun souci puisqu'on sait qu'on ne sera pas confronté à un problème de non-remboursement. On a un problème de service avec une population qui vieillit. On va avoir besoin dans les EHPAD, on va avoir besoin pour le grand âge, on va avoir besoin pour la dépendance, on va avoir besoin de gens bien formés et bien payés.
Et vous voulez que l'État investisse justement dans ces gens bien formés, bien payés, Francis ?
J'ai un ami qui a 74 maisons de retraite, si vous voulez, privées. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi l'État ne s'occupe pas de ça et qu'on laisse ce métier-là à des capitalistes qui capitalistes en tout bien tout honneur. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis aussi un capitaliste.
Pour vous, c'est le rôle de l'État. Je voudrais laisser la chance à Nicolas Bouzeau de pouvoir vous répondre, Francis.
Non, mais je vais prendre un exemple très très concret donc, qui a déjà été évoqué tout à l'heure. L'hôpital public. Je pense qu'à l'hôpital public, il y a en effet des fonctions qui ont besoin de davantage de personnes. Infirmiers, infirmières, médecins. Alors avec une vraie difficulté, c'est que des médecins, on n'en trouve pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a beaucoup de médecins étrangers dans les hôpitaux, pas simplement publics d'ailleurs, mais dans les cliniques aussi. C'est parce qu'on n'en a pas formé suffisamment en France. Mais en tout cas, on a clairement besoin de davantage de médecins dans quasiment toutes les spécialités, en cardiologie, en oncologie, etc., dans les hôpitaux. En revanche, il y a des tâches des hôpitaux, et c'est fait, qui peuvent être externalisées au secteur privé. Je vous donne 3 exemples de tâches qui d'ailleurs sont externalisées parfois au secteur privé, dans des hôpitaux publics qui marchent très bien. Je pense à l'Interco, par exemple, à Créteil. La sécurité, la nourriture, et la blanchisserie. Donc vous voyez, je pense qu'on ne peut pas avoir d'approche globalement dogmatique. Il y a des besoins. Et puis, je veux dire, je pense qu'on doit aussi être capable de faire la distinction entre le service public et le secteur public. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des services publics qui, avec un très bon cahier des charges, peuvent être faits par le secteur privé. Je reprends l'exemple de la nourriture, par exemple, dans les hôpitaux. Moi, je pense que les hôpitaux doivent être capables de mettre en place un bon cahier des charges pour être capables d'acheter des repas que les hôpitaux, d'ailleurs, que les fonctionnaires hospitaliers peuvent avoir du mal à faire, parce que ce n'est pas le métier d'un hôpital que de faire de la nourriture, ce n'est pas un hôtel.
19h39.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1. On va élargir. Je voulais qu'on parle des effectifs et puis à travers les effectifs, des missions demandées justement au service public, à la fonction publique. Vous allez continuer à réagir comme l'a fait Francis, que je remercie, au 39-21. Que faut-il réformer dans la fonction publique ? À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec vos invités, Jean-Marc Canon, secrétaire général CGT Fonction Publique, Gilles Janot, sociologue, chercheur à l'école des Ponts Paris Tech, auteur de Revenir au service public, à la documentation française, et l'économiste Nicolas Bouzeau, directeur du cabinet de conseil Asterès, co-auteur avec Julia de Funès, La comédie inhumaine, pourquoi les entreprises font fuir les meilleurs parus, aux éditions de l'Observatoire.
Jean-Marc Canon, cette réforme de la fonction publique, évidemment, vous l'avez étudiée, il y a des points qui vous déplaisent fortement. Et j'ai parlé du Front syndical uni. Il y a bien des points qui vous conviennent dans ce texte.
Moi, d'abord, je crois qu'il faut lever une ambiguïté ou un truc qu'on entend trop souvent. Bien entendu qu'il faut réformer la fonction publique. Et la CGT y est absolument favorable. C'est une vertu cardinale de la fonction publique que de rendre un service public dans les enjeux contemporains. Moi, je suis en train de dire qu'en 1946, il y a eu un statut qui a été créé. Et donc, tout doit rester en l'état. Bien que la société évolue, les fonctionnaires, la fonction publique, les missions publiques doivent être les mêmes, etc. Évidemment pas, personne ici, peut-être à part Nicolas Sarkozy, ne souhaitait le retour d'un ministère de l'information, etc. Donc on voit que les choses doivent évoluer et que le progrès social, c'est évidemment évolutif. Je dis ça parce qu'il faut le statut dont on parle, que M. le Président de la République et le gouvernement soient réformés, a subi depuis 1983 200 modifications législatives et 300 modifications par décret. C'est le texte de la République qui a été le plus réformé dans les 30 dernières années, le plus réformé dans les 30 dernières années. Je dis ça parce que j'en ai un peu assez d'entendre l'idée, cette image, hein, quoi.
Le statut fonctionnaire,
par nature, ça n'est jamais réformé.
Impossible à réformer.
Voilà, etc. Après, il faut savoir ce qu'on souhaite dans la réforme. Effectivement, dans ce qui est proposé, il y a des choses qui peuvent être parfaitement entendues. Il y a tout un passage sur l'égalité professionnelle femmes-hommes pour laquelle tous les syndicats militent parce qu'il y a de vrais sujets dans la fonction publique sur l'égalité professionnelle à la discrimination des femmes, malheureusement, comme d'habitude. Mais il y a d'autres sujets, et notamment, il y a un sujet qui, pour nous, est un peu emblématique de cette ligne qu'il ne fallait pas franchir, c'est le sujet de la précarité du non-titulariat que le gouvernement souhaite élargir dans la fonction publique. Et ce sujet-là...
Le recours accru au contrat actuel,
au contrat, à la précarité. C'est donc le gouvernement paie un arsenal législatif là-dessus. C'est un des grands axes de ce projet de loi sur lequel, d'ailleurs, il s'étend très, très couramment, le gouvernement, le président de la République. Et ça, c'est pour la CGT une véritable ligne jaune, rouge, blanche, je ne sais plus comment on dit, qu'il ne faut pas dépasser.
Gilles Janot, point de crispation justement sur la question du statut, même s'il a évolué à travers les décennies.
On a quand même sur le statut la question là qui est ouverte des contractuels. Alors, l'évolution sur les contractuels, elle n'est pas radicale. Hein. Le nombre de contractuels, il a évolué de 5% en 10 ans. En nombre, ça ne change pas. Ce qui est ouvert dans le nouveau projet, c'est l'idée d'ouvrir à des contractuels pour des positions de direction. Et le texte, le commentaire dit pour un enrichissement mutuel. Avant, on prenait des contractuels parce qu'on manquait de compétences. Maintenant, on prend des contractuels parce qu'ils sont dans une certaine pensée. On a fait une enquête européenne où on a regardé les gens qui avaient une expérience dans le privé par rapport à ceux qui avaient une expérience dans le public, leur position vis-à-vis de la nouvelle gestion publique. On s'aperçoit que ceux qui ont une expérience dans le privé sont pour cette nouvelle gestion publique. Donc faire venir des contractuels à ces postes de niveau, c'est d'une certaine manière transformer la fonction publique en changeant ses valeurs par le haut, quoi.
Nicolas Bouzou, sur le statut de fonctionnaire.
En fait, là, ce que prévaut la loi, ce n'est pas un changement de statut des fonctionnaires. C'est en effet faire appel à plus... C'est au contraire une façon justement de ne pas changer le statut, c'est-à-dire faire appel à plus de contractuels. Moi, j'y suis favorable, hein, parce que je pense que ça apporte vraiment de la flexibilité dans la gestion des ressources humaines. Mais je pense qu'il faut peut-être pas perdre de vue le fait que on a besoin des fonctionnaires, que les fonctionnaires, beaucoup de fonctionnaires sont démotivés parce qu'en effet, vous avez tout à fait raison, on a fait énormément de réformes. Vous savez, on a fait énormément de réformes de la fonction publique. C'est comme l'éducation nationale. On dit toujours l'éducation nationale ne se réforme pas, mais on fait tous les ans des réformes de l'éducation nationale. Donc je pense qu'au contraire, on doit absolument avoir une vision stratégique de ce que doit être la fonction publique. Et puis, on doit être capable de proposer des améliorations pour faire en sorte que les fonctionnaires aussi aient le sentiment de travailler mieux. Je vais vous donner deux exemples très, très concrets. Premier exemple, je pense que les managers sont assez mal recrutés dans la fonction publique. Déjà, je pense qu'il y en a trop. Et je pense qu'il faut recruter des profils beaucoup plus diversifiés, qui ont des expériences managériales, qui savent entraîner une équipe. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que dans la fonction publique, comme souvent dans le privé d'ailleurs, on considère que manager, c'est une sorte de promotion automatique plutôt qu'une compétence. Premier exemple. Deuxième exemple extrêmement concret, le télétravail. Moi, je suis pour une généralisation très importante du télétravail dans la fonction publique. Alors, le télétravail est légalement possible dans la fonction publique, mais il est très peu pratiqué. D'ailleurs, j'aimerais bien, ça fait des années que je demande au ministère de la fonction publique de nous donner des chiffres. Je ne sais pas si les partenaires sociaux en ont, mais moi, j'aimerais en avoir des chiffres sur le télétravail qui est très peu pratiqué dans la fonction publique. Or, on force des fonctionnaires qui ont souvent des salaires pas très élevés, puisque les salaires dans la fonction publique sont bas en France. On les force à faire des allers. Ils habitent parfois loin de leur lieu de travail. On les force à faire 5 allers-retours par semaine. C'est absolument absurde. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a aussi des choses. Je pense que d'un côté, en effet, il faut, je n'ai pas de pudeur devant les mots, donc il faut flexibiliser la fonction publique, mais de l'autre, il faut aussi proposer aux fonctionnaires des éléments qui leur permettent de faire mieux leur travail, et notamment en leur donnant davantage d'autonomie. Il y a plein de gens qui, vraiment, dans la fonction publique, moi je vois ça quand j'enseigne à l'université, il y a des tas de gens mais qui sont prêts à travailler beaucoup plus s'ils sont entraînés par un bon management. Et ça n'existe pas assez.
19h47. Vous restez bien sur Europe 1. Je voudrais que Jean-Marc Canon puisse répondre à ce que vient de dire Nicolas Bouzou. On revient dans quelques secondes sur Europe 1, tout de suite.
Vos invités, Mathieu Béliard sur Europe 1, l'économiste Nicolas Bouzou, directeur du cabinet de conseil Asterès, co-auteur avec Luc Ferry de Sagesse et Folie du Monde qui vient paru chez IXO. Gilles Jeannot, sociologue, chercheur à l'école des ponts ParisTech, auteur de Revenir au service public à la documentation française. Et Jean-Marc Canon, secrétaire général CGT Fonction publique.
Alors que faut-il réformer dans la fonction publique ? Nicolas Bouzou à l'instant parlait de flexibilité. Alors on a parlé de flexibilité sur l'utilisation de contrats courts, le recours par exemple, mais il n'y a pas que ça, hein, à des CDD de projet. Il y a aussi l'idée de pouvoir individualiser les rémunérations. Ça, c'est l'autre aspect de cette flexibilité dans la gestion, peut-être, des ressources humaines dans la fonction publique. Jean-Marc Canon, flexibilité, c'est un gros mot ?
Pas du tout, mais moi, je voudrais savoir pourquoi les fonctionnaires ne sont pas flexibles. Parce qu'on assène qu'il faut avoir des contractuels pour être flexible. Donc, on sous-entend en parallèle que le fonctionnaire n'est pas flexible. Donc moi, je veux qu'on m'explique en quoi...
Parce qu'on peut imaginer avoir besoin de X main-d'œuvre pendant un temps donné et ne pas en avoir besoin au bout d'un an.
Très bien, le statut général, il y a une méconnaissance du statut général. Le statut général prévoit, je ne veux pas vous ennuyer avec les articles, déjà, de recruter sur toutes les missions qu'il exige de catégorie A des personnels sur les profils particuliers, sur les besoins saisonniers, sur les besoins occasionnels, sur les temps incomplets. Tout ça est déjà ouvert. Je rappelle qu'il y a 1 300 000 non-titulaires contractuels qui passent chaque année dans la fonction publique. 1 300 000. 300 000. Donc tout ça, ça existe déjà. En revanche, moi, je vais expliquer pourquoi le statut, ça a deux aspects sur lesquels, si vous me laissez 30 secondes, qui me paraissent
importants.
Allez-y,
vous êtes là pour
et
ça.
Pourquoi, je plaidais pourquoi il faut un statut des fonctionnaires. Un, et le Conseil d'État le rappelait d'ailleurs en 2003 quand même. Un, on a besoin d'avoir un agent public qui soit neutre et impartial dans l'exercice de ses missions qu'il rend. Il a l'obligation, le fonctionnaire, il n'a pas, c'est pas un plaisir, de s'opposer à un ordre, par exemple, manifestement illégal. Croit-on vraiment que si tel édile ou tel chef de service passe une consigne illégale à un agent et que le contrat de cet agent, 3 mois après, son renouvellement date, dépend de la personne qui lui donne cet ordre manifestement illégal. Vous croyez vraiment que cette personne précaire va avoir les moyens de s'opposer à cet ordre manifestement illégal ? Bien sûr que non. Deuxièmement, la Déclaration des droits de l'homme en France prévoit l'égalité d'accès aux emplois publics. L'égalité d'accès aux emplois publics. Moi, je ne dis pas que les concours aujourd'hui sont parfaits dans la fonction publique. Loin s'en faut. Mais au moins, ils garantissent l'anonymat des profs qui permettent de recruter des fonctionnaires. Le contractuel, par définition, c'est un recrutement de gré à gré. Qui empêchera demain le maire Tartampion, le directeur extra de l'USA, de recruter des gens en fonction de ses sympathies politiques, de ses sympathies religieuses, ou au contraire, de ses antipathies religieuses, etc. Donc moi, je dis, voilà pourquoi le statut des fonctionnaires, il offre au moins pour la population des garanties importantes. Personne n'en parle de ça. Le contrat... C'est moi le contractuel, je le défends. Le précaire, je le défends. C'est dans ma nature de syndicaliste. Mais c'est le principe que je conteste. Et je donne des arguments, enfin, j'essaie d'en donner, ce pourquoi le statut des fonctionnaires, loin de l'image d'Épinal qu'on nous vend sans arrêt, il offre un certain nombre, aujourd'hui encore, de garanties contemporaines et modernes.
Gilles Jeannot.
Oui, il y a un mot qui est très important dans le statut de la fonction publique, c'est le mot de carrière. Et la carrière, c'est l'idée qu'on a un parcours dans la durée, on va faire des choses différentes au cours de son parcours professionnel. La flexibilité des contractuels, c'est une flexibilité bouche-trou, c'est-à-dire « Ah, j'ai besoin d'un poste, je recrute quelqu'un 6 mois, 2 ans, 3 mois, etc. » La flexibilité du fonctionnaire, c'est de penser le travail comme une évolution et d'anticiper ces changements-là. Et le projet de loi qui exclut quand même assez largement les syndicats de la possibilité de discuter de l'évolution des carrières me semble une vraie difficulté de ce projet de loi.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, et je vais redonner la parole à Nicolas Bouzou pour terminer, il y avait quand même cette idée de carrière qui progressait automatiquement à l'ancienneté, non ?
Mais tout en plein... Eh ben dans ce cas-là, moi je suis pas pour un fonctionnaire X, un fonctionnaire Y, recruté au même moment et qui finissent 40 ans après leur carrière au même endroit. La CGT, elle est pour reconnaître la manière de se rendre le service public dans la carrière des agents. On a fait des dizaines de propositions. Aucune n'a été entendue. Discutons de ce sujet-là, plutôt que de ne pas une espèce de méritocratie de salaire au mérite, dont on ne sait pas très bien comment est passé, uniquement par du régime indemnitaire, qui va créer par ailleurs des inégalités flagrantes entre les endroits où les gens auront les moyens de payer ce salaire au mérite et les endroits où ça ne sera pas possible. Et donc ça va figer d'ailleurs toute mobilité possible dans la fonction publique.
Nicolas Bouzou.
Je pense pas que quand on est contractuel, on fasse pas de carrière. Je pense qu'on peut parfaitement faire carrière à un moment, travailler à un moment dans le public, et puis aller dans le privé, et puis retourner dans le public. Je pense au contraire que ça peut être extrêmement épanouissant. Et en fait, si j'étais syndicaliste, je mettrais ça en balance avec la question de la rémunération des fonctionnaires, qui est quelque chose dont personne ne parle, mais vous regardez les comparaisons internationales, vous voyez que les fonctionnaires français sont très mal rémunérés. Et si on a une haute opinion de la fonction publique, ce qui est mon cas, parce que je considère que l'État doit faire assez peu de choses, mais que ce que l'État doit faire, c'est très, très, très important. Quand je vois les salaires des enseignants dans notre pays, par exemple, c'est notre avenir quand même, c'est l'avenir du pays, je suis absolument catastrophé. Donc je pense qu'en réalité, il faudrait mettre les deux en balance. Plus de flexibilité et plus de rémunération.
Merci beaucoup à vous trois. Je sais que c'était une question assez ouverte et qu'il était compliqué d'arriver sur une réponse très claire. Que faut-il réformer dans la fonction publique ? Mais on a pu balayer à la fois la réforme et à la fois ce qui ne s'y trouve pas. Grâce à vous trois, merci beaucoup Gilles Janot, sociologue, chercheur à l'école des ponts Paris Tech, auteur de Revenir au service public à la documentation française. Merci beaucoup. Jean-Marc Canon, secrétaire général CGT Fonction Publique. Bonne soirée, merci. Et vous partez à Dijon après ? Non ? Le congrès de la CGT ?
Peut-être on va y passer quand même.
En tout cas, merci d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce soir. Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet de conseil Asterès et co-auteur avec Juliette Funès de la comédie Inhumaine, pourquoi les entreprises font fuir les meilleurs à l'Observatoire. Merci beaucoup à tous les trois. À 19h55, je me tourne vers Karima Charny qui est avec nous ce soir. Bonsoir Karima.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Qu'est-ce qu'on écoute ce soir Karima ?
Alors ce soir, place dans musique à de l'énergie brute, à de la passion, à du romantisme et à du rock électro. Louis Arlette est mon invité.
J'étouffe, je déborde, je cherche Dionysos, c'est trouvé la discorde.
Voilà, on parlera avec lui de son dernier album, des ruines et des poèmes. Et dans l'émission aussi, on rendra un hommage, il sera à l'honneur Stevie Wonder. C'est son anniversaire aujourd'hui, de l'éclectisme, de la musique. Voici le programme de ce lundi.
Eh bien, une très belle soirée. Merci. Et pour le coup, j'attendrai le Stevie Wonder. Anniversaire ou pas, je n'en rate pas un, évidemment. Belle soirée en musique sur Europe 1 jusqu'à 22h avec Karima Charny. Merci de nous avoir suivis dans votre grand journal du soir. Ombline, à demain.
Oui, à demain, 17h. Merci Mathieu Béliard à suivre l'information avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Europe 1.